Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Palestine, mais de la Palestine du côté roman, puisque nous avons été à la rencontre de Mathilde Vermeer, qui vient de publier « Après Ramallah ». C'est aux éditions Michel de Maulle. Alors c'est un roman, une sorte de voyage initiatique sur fond de conflit israélo-palestinien, puisque ça se passe à Ramallah. C'est l'histoire d'une jeune étudiante qui part travailler pour une association palestinienne qui lutte contre la construction du mur qui est un peu l'objet de toutes les manifestations au moment de ce voyage en 2005. Et donc c'est à la fois évidemment le tragique de la vie en Palestine et puis à côté complètement absurde aussi et parfois tragicomique des situations liées au conflit israélo-palestinien. Mais avant de parler plus profondément avec Mathilde Vermeer de ce roman, puisqu'on parle justement de livres et de fiction, on va commencer par une lecture, comme on dit parfois sur d'autres ondes, ça ne peut pas faire de mal. Et donc là, nous sommes en 2005. En 2005, l'héroïne de ce roman arrive en Palestine. Voilà.
Personne n'a jugé utile de me prévenir. L'aéroport de Tel Aviv est magnifique. Son architecture célèbre la lumière. La beauté du lieu me déconcerte. Je me laisse absorber par l'examen de la foule.
Flight 1436 to Warsaw, please. Proceed to gate A5 for immediate boarding.
Des gens courent, d'autres bavardent au téléphone. Mélange de langues.
Da Caraccio, Avi? My plane has just landed. I will be there in 1 hour. Shalom. Mashlumka. Oui, tout va bien. On a fait bon voyage.
De l'anglais, de l'hébreu, du français, du russe. Des bouts de phrases anodines, l'intimité d'inconnus à peine frôlée. J'observe les habits, les chaussures, les démarches de ces personnages en transit. D'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils font, je n'en sais rien. J'imagine des vies excitantes, des amours piquantes, des professions exaltantes. Soudain, au milieu de ces anonymes, un sentiment de vide m'envahit. L'impression de n'être plus personne. Disparaître. Disparaître plutôt que me sentir perdue dans cet immense aéroport. Je ferme les yeux. Allez. Le regard fixé sur un point à l'autre bout du hall, j'avance rapidement, entourée maintenant d'un fin film de cellophane qui me rend hermétique au monde. Irréelle sensation d'être invisible.
Mécaniquement, je m'insère dans la file où se mélangent touristes et israéliens. Je sors mon passeport. Revient dans ma tête le discours qu'il faut tenir à la police des frontières. Les échos des conseils, trop nombreux, sur ce qu'il faut dire et ne pas dire, faire et ne pas faire, résonnent. Être à la hauteur. On doit me laisser passer. Une porte vitrée. Je me regarde. J'ai hésité en choisissant ma tenue. Faire la frivole venue bronzer sur le bord de la Méditerranée ou porter un costume sévère pour gagner en sérieux et en respectabilité. Surtout ne pas ressembler à une activiste. J'ai enfilé des vêtements sombres et sobres. Me mettre à nu, dévoiler ce grand corps maladroit, je déteste. En pantalon et veste noire, oui, je peux partir à la conquête de Ramallah.
Un accident ou le jeu du hasard. Qu'importe après tout. Ce jour de juillet, ma route passe par Ben Gourion. Modernité, sol impeccable, odeur de Javel. Ultime étape de mon parcours vers Ramallah. Ramallah, ville au nom usé qui jamais ne fait rêver. Ramallah, citadelle interdite, capitale de pays en guerre. Pour ma mère, Ramallah, c'est Sarajevo durant le siège. Des snipers en haut des immeubles, des gens qui galopent pour éviter les balles. Très loin de la réalité, mais comment peut-elle le savoir? Je regarde mes pieds. Est-ce que je sais, moi, ce qui m'attend? Je l'ai mal préparé, ce voyage. Partie si vite. Trop pressée, trop impatiente, trop impulsive. J'ai décidé, il y a des années, de changer le monde. Et je juge qu'il est grand temps de s'atteler à la tâche. 23 ans, j'ai fini mes études, rangé ma vie parisienne dans des cartons, dit au revoir, et j'ai décampé. Du haut de mon 1m75, protégé par mes rondeurs, rien ne peut m'arriver. car à l'étranger, je suis une autre. J'ai l'habitude de partir loin.
Pourtant, je n'étais pas destinée à échouer dans un tel pays. Je ne parle pas l'arabe. La Palestine ne m'a jamais passionnée. Jamais je n'ai pris part aux débats enflammés qui surgissent dès qu'on mentionne cette partie du monde. Je connais l'histoire du conflit, je lis les journaux sur ce sujet, mais dans mon esprit, les choses restent floues. Je pars parce qu'on construit un mur, énorme, et que dans ma mémoire, l'un des premiers souvenirs d'images télévisées date d'un soir de novembre, quand à Berlin, un mur tombait, et que la foule criait son espoir d'un monde plus libre, plus juste. On ne résout rien en construisant des murs, j'en suis persuadée.
Élise Colla ?
Je sursaute en entendant mon nom. Le plus naturellement possible, je débite ma tirade. Je viens faire du tourisme dans ce beau pays, souvent loué par les jeunes Israéliens croisés au cours de mes pérégrinations indiennes. En face de moi, la jeune femme à l'uniforme vert me regarde avec curiosité.
Vous êtes allée en Inde ?
Oui, j'ai passé un an là-bas. Elle remue la tête, puis replonge une minute dans l'examen de mes papiers, satisfaite par mon explication. Le tampon émet un bruit sourd en s'abattant sur une page de mon passeport. Welcome, girl. J'ai obtenu mon visa. Comme un automate, sans apprécier cette première victoire, je me dirige vers la sortie pour m'engouffrer dans un taxi.
En route vers Jérusalem, fatiguée par mon périple, je contemple le paysage qui défile. Une plaine verdâtre, des collines arides, de gros cailloux blancs reflétant une lumière rasante. C'est ça la Terre Sainte ? Mais mon esprit est trop saturé d'interrogations pour admirer le tableau naturel. Les questions qui me hantent depuis des semaines mobilisent mon attention. Vais-je trouver facilement, à Jérusalem, le minibus qui me conduira à Ramallah ? Aurais-je du mal à franchir les barrages ? À quoi ressemble un checkpoint ? Et le mur ? Comment dois-je me comporter devant les soldats ? Que diront-ils en me voyant transporter un sac de voyage ? Et si je craque ? Je m'enfonce dans le siège, paniqué.
يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايم وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
Sur cette terre, c'est une poésie de Mahmoud Darwish, donc qui est un poète palestinien. Et ça, il est accompagné dans cet enregistrement qui a été enregistré à Ramallah en 2008. Il est accompagné des frères Jourban, qui sont des oudistes très connus en Palestine et ailleurs. Puisque ce soir, avec les oreilles, on parle de Palestine, puisqu'on a été interviewé Mathilde Vermeer. Mathilde Vermeer qui vient de publier un roman qui s'appelle Après Ramallah. Après Ramallah est publié aux éditions Michel de Maulle. Et donc, on a été à la rencontre de cet auteur qui raconte son parcours dans une Palestine de l'époque de 2005, au moment où on construit le mur. Un peu de oud et puis après, interview. Alors Après Ramallah, c'est le premier roman de Mathilde Vermeer, donc c'est un roman sur la Palestine. On reçoit souvent aux oreilles loin du front des auteurs, ou plutôt des jeunes ou des militants qui reviennent de Palestine, mais généralement ils écrivent soit du témoignage, soit ils font du documentaire ou du reportage photo. Pourquoi avez-vous décidé de faire une fiction ?
Alors, la fiction, c'est un vrai parti pris, assumé. C'était l'idée d'emporter le lecteur, de le prendre par la main et de proposer à des gens que le sujet n'intéresse pas ou qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu plein de choses sur le conflit israélo-palestinien, de l'explorer d'une autre manière et du côté aussi humain et de remettre de l'émotion. Pourquoi ? Parce que quand moi je suis partie en Palestine, j'avais déjà beaucoup lu, j'avais vu des documentaires et j'avais une approche assez académique des enjeux ou politiques, mais c'est vrai que je ne me rendais pas compte de ce que ce conflit pouvait signifier dans la vie des gens. Et il me semblait que le roman était un bon lieu pour témoigner de ça, de dire ça fait quoi de passer un checkpoint, ça fait quoi d'être devant le mur, derrière ou devant, je ne savais plus comment dire. Ça fait quoi de pas savoir si demain on pourra aller à Naplouse alors qu'on a prévu d'aller à Naplouse parce qu'on n'a pas vu personne de sa famille depuis très très longtemps. Et donc j'avais envie de remettre de l'humain, de l'émotion, d'où le choix du roman. Et puis aussi il me semblait qu'il y avait déjà beaucoup d'essais effectivement sur la Palestine, donc voilà, atteindre une autre cible, permettre aussi une lecture plus facile. C'est un bouquin qui j'espère se lit dans le métro facilement, et donc voilà, de permettre par la fluidité à des lecteurs de venir s'intéresser au conflit israélo-palestinien, pour ceux qui le connaissent déjà, le revisiter et en passant du côté de l'émotion.
Parce que toi, au départ, tu étais quand même partie pour aller travailler dans une ONG en Palestine. Alors c'est à quelle époque et dans quelles conditions t'es partie ?
Alors moi, je pars donc en juillet 2005 pour travailler dans une ONG qui faisait du lobbying contre le mur, qui existe toujours, qui s'appelle Stop the Wall. Et c'était dans le cadre, je finissais mes études à Sciences Po en relations internationales avec une spécialité sur les conflits. Et donc j'avais envie d'aller sur le terrain, évidemment, parce que tout ça me semblait assez théorique. J'avais déjà pas mal voyagé, j'avais vécu en Inde, donc j'avais pas peur d'aller en Palestine, j'ai été bien naïve. Et en fait, c'est pas que le pays est effrayant ou quoi que ce soit, mais la réalité auquel on est confronté est dure, quoi. Est vraiment dure, cette souffrance des gens. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti, d'autres n'ont pas du tout ce ressenti-là. Ce pays, moi, m'a rendu profondément triste. triste parce que on se retrouve face à des petits soldats qui ont... Oui, des petits soldats, je les appelle petits soldats parce qu'ils avaient à l'époque à peu près le même âge que moi. Moi, j'avais 23 ans, ils avaient entre 18, 19, 20, 21, 22, donc voilà. Donc, c'est des petits soldats tout jeunes qui sont juifs. Moi, j'ai une grand-mère qui était juive et qui était déportée. Donc, je trouvais ça profondément triste de voir ces gens-là avec cette histoire-là très difficile. Et on voit bien les traumatismes et on voit bien comment ça se répète et comme quoi il faudrait vraiment des psychanalyses collectives de longue durée en Israël et maintenant en Palestine parce que ça fait le même temps. Donc, voilà, il y a des traumas. Et donc, ça m'a rendue profondément triste des deux côtés, quoi. Toute cette souffrance d'en arriver là et dans cette situation aussi inextricable. Et ça fait surgir des questions existentielles. Pourquoi la violence? Pourquoi la guerre? Ça paraît comme ça très théorique, mais ça l'était pas du tout. Et d'où cette envie d'écrire un bouquin pour dire je fais quelque chose. Je fais quelque chose, je témoigne et je raconte un peu de la vie de ces gens.
Et alors ton héroïne, elle travaille dans une ONG et elle se balade en Palestine de manifestations en actions différentes. Et à chaque fois, tu fais des portraits de tous ces internationaux, des portraits des familles palestiniennes et aussi des portraits d'un pays. Comment tu es arrivée à cela ?
Tout simplement, en fait. En arrivant, donc, il y a eu ce choc. Ce choc du mur, ce choc des checkpoints, encore une fois, j'avais l'impression de connaître un peu les enjeux, mais théoriquement sur le papier. Et là, tout d'un coup, de les voir en réalité, il y a eu ce besoin énorme de comprendre. Et donc, je travaillais pour cette ONG qui faisait un boulot assez intéressant, mais finalement, je me retrouvais, moi, derrière un ordinateur. Et je me disais, non, j'ai pas traversé la Méditerranée, je me retrouve pas dans ce pays avec cette situation que je sentais très dense, parce que c'est autour de soi, c'est partout. Je me disais, non, je ne vais pas me retrouver derrière un ordinateur. Donc très vite, j'ai pris des distances avec cette ONG pour un certain nombre de raisons. Et j'ai pris mon sac et mon cahier, mon stylo, et j'ai été me balader un peu partout en allant rencontrer d'autres ONG ou d'associations locales. J'ai assez vite rencontré des gens à Ramallah, donc j'aurais dit, tu ne connais pas quelqu'un à Jenin, à Naplouse, à Hébron, à Jéricho, je voudrais y aller. Et de l'autre côté aussi, j'ai rencontré des gens merveilleux aussi du côté israélien. J'étais à Haïfa, à Tel Aviv, et j'ai dormi aussi chez des Israéliens. Donc je tiens à le dire parce que c'est vrai que c'est une société moins facile d'approche, mais j'ai été accueillie, beaucoup chez des Palestiniens parce que c'est là où j'ai passé du temps, mais j'ai quand même été accueillie aussi à Tel Aviv, à Haïfa, et par des gens avec qui j'ai eu des... Donc, je me suis débrouillée comme ça, en remuant ciel et terre, et finalement, les gens m'ont ouvert assez facilement leurs portes parce que... Ça a beau être un conflit très couvert, les gens ont parfois l'impression d'être pas entendus et donc il y a un vrai besoin de parler, de témoigner. Et donc je ne sais pas s'ils croyaient à mon projet de livre. En tout cas, ils ouvraient la porte et ils me racontaient leur quotidien.
Justement, ce quotidien, c'était quoi ?
Ce quotidien, c'est les restrictions. Restrictions sur la liberté de mouvement, c'est ces fameux checkpoints qui bloquent tout le temps le passage. C'est ces restrictions sur l'économie. On en entend beaucoup parler à Gaza, qui est complètement étouffé, mais en Cisjordanie, c'est pareil. Il y a des problèmes sur les importations et les exportations. Vous savez jamais trop ce que vous allez trouver au marché, parfois. Une situation économique qui, depuis le mur, est vraiment extrêmement plombée. La peur. La peur tout le temps, parce que la peur d'être dénoncé, la peur des arrestations collectives ou individuelles, la peur des punitions collectives, ça c'est pour les gens qui vivent dans les camps de réfugiés, parce qu'il y a encore donc, des camps. C'est ces restrictions-là, et c'est une autre restriction qui est plus énorme, qui est, je dirais, une restriction sur le futur, qui est ce truc muré aussi devant, quoi. Ça m'a vraiment pris à la gorge, ce truc de l'espoir. Ça paraît un mot absolument insignifiant qu'on est ici en France, on réfléchit pas en termes d'espoir. Et là-bas, ça prenait tout son sens. C'est quoi demain? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui attend mes enfants? Avec une envie quand même un peu parfois de se flinguer tellement c'est plombé. Voilà, donc c'est ça ces restrictions-là. C'est des restrictions très pratiques sur le quotidien, sur plein de choses. Et puis cette énorme restriction sur demain.
Et alors cette énorme restriction sur demain, cette absence d'espoir, on voit aussi qu'il y a énormément d'étrangers, d'internationaux qui vont en Palestine. Et alors, eux, comment ils se retrouvent là-bas pour une lutte qui n'est pas la leur ? Et comment ils sont accueillis par les Palestiniens ?
Alors effectivement, il y a une communauté internationale assez importante en Palestine. Il y a différents types de personnes. Il y a évidemment tous les gens des ambassades, plutôt à Jérusalem, mais ils ont souvent des représentations à Ramallah aussi. les représentants après des grandes associations, je ne sais pas moi, MSF, MDM, CARE, voilà, l'UNICEF, les bailleurs de fonds, que ce soit l'Union européenne, machin, le programme des Nations Unies pour le développement. Donc il y a cette communauté officielle-là, assez posée, stabilisée, qui représente quand même, je dirais, plusieurs centaines de personnes ou milliers, j'ai du mal à calculer, pas mal de gens. Après, il y a un certain nombre d'activistes, de militants, c'est-à-dire des jeunes qui viennent souvent pour un mois, deux mois, trois mois, dont je parle aussi dans le roman, et qui viennent faire un peu les boucliers humains, ceux qui viennent à toutes les manifestations et qui sont prêts un peu à tout et n'importe quoi, quitte à en mourir. Hein. Il y avait eu ce drame de cette jeune femme, je crois une américaine, Rachel Khoury, il y a quelques années, il y avait eu un documentaire sur elle qui s'était fait écraser à Gaza en se mettant devant un char. Donc voilà, des gens qui sont à peu près à tout, charmants par leur engagement, je dirais, parce que c'est quand même très beau et très généreux, mais complètement tête brûlée et effrayant par ailleurs. Enfin, est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que... Voilà, donc il y avait tous ces groupes-là. Après, il y a beaucoup d'Israéliens quand même qui viennent régulièrement en Palestine et qui font des choses, qui sont impliqués dans des projets de solidarité autour du mur, enfin, malgré le mur. Voilà, et puis après, il n'y a pas tellement d'économies, il n'y a pas tellement de compagnies étrangères, donc voilà, c'est à peu près ces gens-là qui militent donc, dans différents cercles et qui se retrouvent et qui ont comme rapport avec les Palestiniens. Alors, c'est intéressant, certains se posent et un peu et commencent à bâtir une vie comme partout et rencontrent des gens, puis d'autres sont dans des cercles, je pense à certaines personnes à l'ONU, mais c'est pas pour les stigmatiser, qui peuvent être plus peut-être dans leur bulle parfois et donc en moins de rapport avec le terrain. Moi ça me gênait un peu, c'est vrai, parfois cette différence entre la communauté internationale et la réalité, et comme j'étais arrivée dans une ONG palestinienne par une amie qui avait des contacts elle sur le terrain, bah, j'avais moi ces contacts là aussi, et donc j'étais vraiment beaucoup avec des Palestiniens, et d'où la difficulté aussi à trouver ma place dans cette communauté internationale dont l'héroïne parle aussi, hein. Elle a du mal à zigzaguer, à trouver voilà, ça lui va pas les fonctionnements divers et variés de ces différents groupes pour des tas de raisons à chaque fois, assez raisonnable d'ailleurs je trouve. Voilà, et donc après je pense que c'est des histoires humaines, est-ce qu'on fait l'effort ou pas d'aller rencontrer les gens, d'en savoir plus. Après c'est comme tout boulot, on s'installe aussi dans un certain confort, la réalité est difficile, donc est-ce qu'on peut se la prendre dans la gueule, pardon l'expression, tous les jours en allant rencontrer des gens qui vont vous raconter comment c'est horrible leur quotidien. Voilà, ça c'est des choix individuels. Moi en tout cas j'ai eu envie d'aller écouter les gens, je sais que d'autres le font. Après voilà, il y a autant de manières de fonctionner qu'il y a d'individus. Et du côté palestinien, je dirais qu'il y a plutôt un bon accueil. Enfin, moi, j'ai été étonnée de cette chaleur dans les maisons. Enfin, j'ai mangé et dormi dans des dizaines de maisons et toujours avec une bonne humeur, alors qu'ils n'ont pas grand-chose parfois. Donc ça m'a beaucoup étonnée. Alors, ce qui était étrange, c'était d'être une femme, parce que parfois, du coup, il y avait toute cette scission-là et je me retrouvais qu'avec les femmes. Ce qui m'intéressait de voir les fonctionnements, mais en même temps, il y avait des questions que j'avais envie de poser. Parce qu'il y avait mes recherches sur mon bouquin, mes machins, des trucs à comprendre. Et je savais qu'il aurait fallu être avec les hommes. Et parfois, j'étais avec les hommes et je me demandais aussi ce que je foutais là parce que j'étais la seule femme. Donc ça, c'était très pénible. Et puis, il y avait aussi cette dichotomie entre voilà, les gens que je rencontrais dans leur maison, qui m'emmenaient visiter des trucs, qui étaient charmants avec moi, qui m'aidaient vraiment, qui me racontaient des choses intéressantes. Et puis, ce regard dans la rue, parce que j'étais une blanche qui ne portait pas le voile. Et du coup c'était vachement difficile ça aussi, hein, ce regard qui juge, cette apparence, cette main qui venait tâter des trucs de temps en temps, les insultes, ça m'a beaucoup coûté parfois, je dois dire. Voilà, cette réalité là c'était aussi difficile, c'est aussi un pays arabe avec tout ce qu'on sait de rapports parfois compliqués avec les femmes.
Oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et ce soir, nous parlons de la Palestine avec Mathilde Vermeer, qui vient d'écrire « Après Ramallah ». Alors tout à l'heure, en début d'émission, nous étions avec l'héroïne de son roman, puisque ce livre « Après Ramallah » est un roman. Elle venait d'arriver en Palestine. Alors là, nous sommes un vendredi, un jour de manif, et nous allons voir ce qui se passe.
«
me souviens de ce jour-là, ce vendredi. Personne dans les rues de Ramallah. Store baissé sur les devantures. Vendredi, jour de congé. Je marche vite sur les trottoirs vides, je suis en retard. Vendredi, jour de manifestation. Le boss m'a demandé de couvrir un rassemblement dans le village de Béline. Je n'aime pas ce décor de ville abandonnée. Fausse tranquillité. J'accélère, je cours presque. J'arrive au parking où stationnent les taxis collectifs. Un van est sur le point de partir. Je grimpe dedans.
Dans le cortège se mêlent Palestiniens, Israéliens et internationaux. Un mot d'ordre, non-violence. L'objectif est de privilégier le spectaculaire. Il faut que la presse étrangère soit intéressée et raconte comment la lutte contre le mur est menée. On doit attirer les sympathies, créer un mouvement qui s'indigne de la politique israélienne. Aujourd'hui, des manifestants portent des masques de Sharon et de Bush. Bizarre. D'autres ont peint sur leurs joues les couleurs du drapeau patché. Les Israéliens représentent la minorité, qualifiée de gauchiste, qui se prononce contre l'occupation. À ces jeunes, ils parlent fort, rigolent, chantent. Une manière de se donner du courage. Les militaires sont postés à quelques centaines de mètres de là, prêts à lancer des gaz lacrymogènes. Je m'impatiente. Pourquoi ce surplace qui dure ? Je prends des photos, des affiches, des banderoles qui clament « Démolissez le mur ». Au milieu de cette foule, je ne sais quelle attitude adopter. Lier conversation ? Pour dire quoi ? Je croise un journaliste de Reuters avec un gilet pare-balles. Sur mon dos, une chemisette fleurie. La tenue idéale, visiblement. Je me balance d'un pied sur l'autre, nerveusement, fouille dans mon sac à la recherche d'un chewing-gum. Ah ! De la crème solaire. Le soleil est brûlant, pas la peine de cramer. J'étale avec application le liquide blanc. Rassurant de focaliser son esprit sur quelque chose de trivial.
Le cortège se met en route. Une armada impressionnante nous attend. Des dizaines de soldats répartis en demi-cercle. Pourquoi une telle troupe ? Pour des manifestants qui scandent que le mur est une honte ? Des silhouettes calquées filment. Des vidéos à refiler au service de renseignement, sans doute. Je range mon appareil photo pour me fondre dans la masse. Les soldats, avec leurs carapaces de métal, me font flipper. L'assemblée interpelle les militaires en désignant les messages sur les pancartes. Ces derniers tolèrent l'agitation pendant 10 minutes, puis le ton change. L'ordre de se disperser est donné. Les manifestants refusent de partir. Ils veulent qu'on les écoute. Les soldats perdent patience. Des bombes lacrymo sont jetées. Des bandades. Il faut courir. Courir sans se retourner. Courir sans trébucher. Courir en tenant fermement contre le nez un mouchoir en coton. Piètre protection contre la brûlure des gaz.
Soudain, des garçons, 14-15 ans, apparaissent. L'heure est au jet de pierre. Occasion pour les soldats de répondre plus énergiquement. Ils se mettent en chasse. Paysage dégagé, visibilité parfaite. Facile de placer quelqu'un dans la ligne de mire d'un fusil. Je me réfugie avec d'autres sous le porche d'une maison. Mon cœur bat à toute vitesse, je dégouline de sueur. Un homme, sourire compatissant, me demande
« Première fois, Béline ?»
J'acquiesce et détourne la tête. Pas envie de discuter sur le mode de la complicité. Pas envie non plus qu'un mec me raconte des aventures survenues dans des circonstances similaires. Je ne trouve pas la situation marrante.
« Don't worry !» Au fait, je m'appelle David, je suis anglais. J'appartiens au MIP, tu connais ? T'as dû voir nos drapeaux ?
Une déflagration monumentale conclut son discours. À quelques mètres, une bombe assourdissante vient d'éclater. Je me frotte les oreilles en un geste inutile. Mes tympans grésillent, mon corps tremble. Dans ma tête, le bruit de l'explosion retentit en écho. Je me mords la lèvre pour repousser la douleur.
Un long moment passe. Une demi-heure, une heure, je ne sais pas. La situation s'apaise. Des militants émergent d'obscures cachettes. On rentre vers le centre du village. On croise des habitants au regard interrogatif. Comment s'est déroulée la manifestation du jour ? Est-ce que l'armée va débarquer et fouiller les maisons ? Ces cortèges du vendredi n'en ont que trop l'habitude. Ils savent qu'il faut s'attendre à des représailles des soldats si l'agitation du jour les a débordés. Une femme observe la scène de son toit. En même temps, elle surveille ses fils. Elle est anxieuse. Ce genre d'action est-il efficace ? La majorité des villageois évitent de s'y rendre. Pour eux, les risques sont trop grands. Les soldats israéliens peuvent emprisonner un homme sans avoir à donner de motif. Détention administrative. Une telle procédure permet une incarcération pour 6 mois, renouvelable. De quoi être prudent.
Dans une maison prêtée aux manifestants, on se congratule. On compare la manifestation du jour à celle de la semaine précédente. On établit des pronostics sur celle de la semaine suivante. Un grand brin met un pansement sur le front d'une copine tombée en courant. Où suis-je ? Personne ne semble affecté. J'ai eu peur aujourd'hui. Pas eux. Je n'ai rien à partager avec ce groupe. Mieux vaut partir.
Tu veux du thé ?
Un gars aux cheveux frisés, aux jeans troués, se tient devant moi, un verre à la main.
Tu ne me reconnais pas ? David ! J'étais sous le porche.
Ah oui.
J'attrape le thé, souris légèrement et trempe mes lèvres dans le verre. Une conversation s'engage, ou plutôt un monologue. David étant désireux de partager ses impressions avec cette fille à l'écart qu'il remarque pour la première fois. Il précise qu'il m'a prise pour une snob parce que je ne me mélangeais pas au tumulte. Puis il a pensé que je ne comprenais peut-être pas bien l'anglais, d'où ma réticence à me joindre à la discussion. Je ne réagis pas. Il se met à parler lentement. Foutu anglais qui s'exprime soit à toute allure en utilisant des mots d'argot, soit à vitesse d'escargot avec gestes et mimiques exagérés. Comme si les gens qui ne comprennent pas leur langue sont atteints d'une maladie qui altère leur capacité intellectuelle. L'espace d'un instant, je voudrais lui prouver que je parle parfaitement anglais. Je change d'avis. Pas la peine. Je le laisse causer.
Il dit qu'il est arrivé en mai, qu'il a rejoint ce groupe, Mouvement International pour la Palestine, qu'il a participé à toutes les manifs, s'est fait arrêter une fois, mais devant son entêtement à se taire, on l'a relâché au bout de 24 heures. Dernièrement, il s'est enchaîné au mur avec une bande de potes. Il rit comme un gosse qui a fait une bêtise. Je profite d'un temps mort pour annoncer que je dois partir. Il répond qu'il a été heureux de faire ma connaissance, me donne un papier avec son téléphone et son mail, au cas où. Cas où quoi ? Je remercie et décampe, soulagée d'échapper à ce type bavard. De retour au bureau, je me réfugie dans ma chambre, m'effondre sur mon lit, vidée.
Une douleur à l'épaule provoque mon réveil. Endormie sans faire attention à ce corps trop sollicité par le soleil, la course, la tension. Je tends l'oreille. Silence. Total. Désagréable de revenir à la conscience dans le vide sonore. Mes poils se hérissent. L'absence de bruit est mauvais présage. Je me frotte le visage, la nuque, me redresse, pose mes pieds nus sur le carrelage frais, traverse la chambre, emprunte le couloir, remarque l'horloge accrochée dans un coin. Minuit. L'appartement est noir. Il n'y a personne. Les autres chez eux savourent la trêve familiale du vendredi. C'est parfait. Je suis tranquille, pour une fois. J'arrive aux toilettes, me déshabille, pisse la porte ouverte. Le liquide qui s'écoule prend la place du vide auditif. Je renifle ma propre odeur, preuve que je suis en vie, bien réelle, bien humaine. Je m'essuie, me rhabille, lave mes mains, sors. Je goûte au silence épais alors que je reprends le couloir vers la cuisine. Je n'allume pas.
Une assiette, un couteau, une casserole, la plus large pour que les fruits y tiennent tous, du sucre. Faut peu de choses pour une compote. Je pose les prunes dans l'assiette, passe le plat sous le filet d'eau du robinet, les tapote avec un torchon pour qu'elles sèchent. Puis, un à un, j'attrape les fruits, d'une pression du pouce les oblige à se fendre, retire le noyau, saisis le couteau, tranche les moitiés en quart, jette les bouts dans la casserole. En 10 minutes, c'est fini. Les fruits dénoyautés, coupés, sont prêts à cuire. La casserole est lourde, je la place sur le gaz, ajoute un verre d'eau, le sucre. Puis je m'empare d'une chaise, m'assois. Le clapotis des fruits se fait bientôt entendre. Leur parfum emplit l'air de la pièce. La compote qui se prépare accapare mes sens, délogeant les souvenirs de la journée. Le temps s'arrête. Je veille sur ma casserole. Éviter que le dessert brûle. Se lever régulièrement pour ajouter un peu d'eau. Quand les fruits sont réduits en bouillie, je les retire du feu. Je verse le tout dans un saladier. Il y en aura pour tout le monde demain. Faut espérer qu'ils aiment ça, la compote. Je retire un bol du placard, le remplis en me servant largement. J'ai besoin d'engouffrer les fruits chauds au plus profond de moi-même.
Le bol à la main, je parcours la cuisine avant de décider d'aller voir dehors, comme on sait dehors, dans les pièces noires, par une nuit étonnamment silencieuse. Je me dirige vers la baie vitrée du salon. J'observe l'extérieur. La rue dépeuplée, l'immeuble d'en face immobile, les voitures sagement garées. Je me retourne, m'adosse contre la vitre, enfourne 3 cuillerées dans ma bouche, pousse un soupir. C'est là que je distingue le corps qui bouge, la poitrine qui se lève et s'abaisse avec régularité. Je ne suis pas étonnée, encore moins effrayée. Cet homme n'a ni vie ni ambition de construire quelque chose qui y ressemble. La cause est son foyer, sa mère, sa femme, ses enfants, son alpha, son oméga. Vive la cause! Il est comme tant d'hommes et de femmes dans le milieu des ONG, monomaniaque dévoué. Il ne compte pas les heures, se fout d'avoir du temps libre, des gens qui tiennent à lui. Son travail donne tout son sens à son existence. Puis-je le railler? Suis-je différente? Karim bouge un bras, heurte sa jambe contre le rebord du canapé, gémit.
C'est toi, Elisa?
Oui. J'arrive pas à dormir. Je me suis préparé quelque chose à manger et je suis allée dans le salon. Je viens de me rendre compte que tu dormais sur le canapé. Karim s'étire. Il est torse nu, transpirant sous une couche de poils noirs frisottants. Définitivement, les hommes velus, c'est pas mon truc.
J'ai eu un coup de barre alors que je travaillais sur le dossier. Tu sais, la demande de subvention. Tiens, allume la lumière.
Je m'exécute sans protester.
Tu peux m'aider? Comme tu ne dors pas.
La cause n'attend pas, la cause ne permet pas de se défiler.
C'est à rendre demain et il y a encore le budget prévisionnel à dresser, plus...
Ok, si on s'y met à deux, on aura vite fini. Je n'ai pas le courage d'argumenter. Je m'installe devant l'ordinateur. Différente? Exactement comme lui.
Alors oui, c'était un extrait du roman de Mathilde Vermeer « Après Ramallah ». Alors son héroïne, entre les manifs contre le mur, le travail administratif au sein de l'ONG palestinienne pour laquelle elle travaille, son héroïne se balade en Palestine pour rencontrer les gens et voir ce qui s'y passe. Et ce voyage la transforme entièrement, mais évidemment, on comprend assez vite que cette transformation de l'héroïne est aussi liée à la transformation de son auteur. Donc on va continuer notre discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Mathilde Vermeer pour voir ce qu'il en est. Allez, à tout de suite. C'est aussi à cause de cette expérience que tu as eu une révélation, celle de l'écriture finalement.
Oui, tout à fait. Ce que j'avais envie de dire avec ce bouquin, c'est qu'il y a vraiment une promesse que je tiens en écrivant ce livre. Une promesse qui est de dire... Parce que j'allais voir les gens leur disant « Je prépare un livre, est-ce que vous auriez un peu de temps à m'accorder ?» Les gens me recevaient. Et à la fin, quand ils m'avaient reçu et dit tout ça, je répétais « Je vous promets, j'écrirai un... Enfin, le livre va sortir, vous n'avez pas perdu mon temps. » En fait, je pense qu'eux en avaient rien à foutre, hein, que je le sorte ou pas. Il y a plein de gens avec qui je suis forcément plus en contact. Mais pour moi, c'était important. C'est vraiment un truc de la parole donnée, du devoir. Ce pays m'a marqué et j'avais envie, à ma manière, même si c'est petit, même si c'est dérisoire, de poser une petite contribution. Donc, je tiens une promesse. Et en contrepartie de cette promesse, cadeau formidable, ça a été d'apprendre à écrire. Parce que... J'avais fait des études assez poussées, mais j'écrivais pas de la fiction. Et ça, c'est vraiment un autre travail, un autre jeu. Et donc, je me suis mis à fréquenter les ateliers d'écriture, je me suis mis à à moi-même à me former pour animer des ateliers d'écriture et donc faire écrire d'autres gens. J'ai travaillé avec des éditeurs, j'ai fait des rencontres incroyables et ma plume a bougé. J'ai goûté à ce plaisir de raconter des histoires, de travailler aussi seule, tard dans la nuit sur mes écrits, ça me plaisait. Et c'est vrai que là je suis mordue, j'ai d'autres bouquins, pas forcément sur la Palestine, et ça c'est un cadeau énorme, enfin, voilà, de découvrir ce plaisir d'écrire.
Mais ça reste quand même un bouquin qui est aussi un bouquin pour la paix, un bouquin sur la paix.
Oui, tout à fait. C'est vraiment... Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un rapport de force dans ce pays-là et qu'on ne peut pas l'oublier. Les checkpoints, ils sont d'un côté et pas de l'autre. Donc forcément, mon cœur est du côté palestinien parce que c'est les plus faibles là, dans cette situation-là. Maintenant, il n'y a pas de complaisance non plus. C'est-à-dire que les Palestiniens sont parfois extrêmement énervants, arrogants, mal organisés. Donc voilà, il n'y a pas de complaisance par rapport à eux. De l'autre côté, les Israéliens, je trouve qu'ils sont parfois très durs, très arc-boutés sur leur position. Et, c'est une société qui est très difficile, hein, qui est très hiérarchisée. Il y a beaucoup de racisme au sein de la société parce qu'il y a beaucoup de strates. Comme c'est des populations qui venaient des quatre coins du monde, qui n'avaient pas du tout les mêmes cultures. Et on sent ça, on sent toutes ces tensions. Donc c'est pas une société facile. Maintenant j'ai aussi, on peut pas, c'est pas tout noir. J'ai aussi rencontré des Israéliens formidables qui se battent pour la paix, qui ont des vrais engagements, qui ont un regard sur la vie qui me plaît. Donc voilà, pas de complaisance ni pour les uns ni pour les autres. Un vrai appel à la paix, une vraie envie que ça bouge et qu'on puisse trouver une solution parce que les Israéliens ont le droit à leur État, mais les Palestiniens aussi. Et je pense vraiment qu'on peut le faire dans des conditions bien meilleures qu'une frontière avec un grand mur. Donc oui, appel à la paix, appel aux bonnes volontés des uns et des autres, même si c'est naïf de dire ça. Et espoir qu'un jour ça change, vraiment.
Et là, c'est ton livre, c'est Après Ramallah. Et depuis ce temps-là, depuis que tu étais à Ramallah, est-ce que tu as eu des retours sur ce qui s'est passé là-bas ?
Alors oui, je suis quand même restée en contact avec certains Palestiniens, pas tous, comme je le disais, mais certains. Mon impression, c'est que les choses n'ont pas tellement bougé. Autant à Gaza, ça se durcit de jour en jour et c'est compliqué. Mais moi, je n'avais pas eu accès à Gaza déjà, parce que c'était, à ce moment-là, c'était le retrait des Israéliens de Gaza. Donc,
C'était quand déjà ?
Oui, alors ça, c'était en juillet 2005, le retrait. Et donc, c'était quand les colons partaient. Donc, Gaza passait de territoire... occupé à territoire assiégé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne au sein de Gaza, mais sur toutes les frontières, ça restait très, très fortement bouclé. En Cisjordanie, il y a toujours l'occupation, il y a toujours des colonies qui se développent toujours, il y a toujours des checkpoints, alors ils bougent. En fonction des périodes plus ou moins calmes, il y en a plus ou moins, ça c'est vrai. Mon ressenti, ce que j'ai l'impression quand je lis les articles dans les journaux et puis surtout ce que m'en rapportent les gens là-bas, c'est que ça n'a pas tellement bougé. Donc la situation, je pense que mon livre est encore assez, très actuel sur la réalité décrite en Cisjordanie.
Et est-ce que tu as essayé d'envoyer tes écrits aux gens que tu as interviewés là-bas ?
Non, parce qu'il y a un problème de barrière de langue déjà. Là, j'écris en français, certains des entretiens étaient en anglais, enfin, avec quelqu'un qui faisait la traduction, avec des gens au final qui parlaient arabe. Moi, j'avais appris 3 mots d'arabe pour me débrouiller dans la rue, et c'est ce que je faisais à peu près, mais il était hors de question de mener des entretiens en arabe, c'était pas possible. Donc, il y a plusieurs langues qui se mélangent, alors que j'ai essayé de mettre un peu dans le bouquin, parce que de temps en temps, il y a des mots arabes qui se baladent, et j'ai essayé de jouer un peu là-dessus, créer cette langue-là. Mais non, il y a pas. Il partira pas directement en Palestine. Ça, voilà. Donc, j'espère qu'ils sentent que la promesse est honorée à un autre niveau, mais ils auront pas forcément le bouquin dans leurs mains. Voilà.
Et ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a aussi un rapport entre la Palestine et alors là, un truc un peu plus étonnant, c'est l'Inde.
Oui, alors l'Inde, effectivement, qui n'était pas au début dans les premières versions du livre, parce que c'est un livre que j'ai écrit sur plusieurs années. Parce que j'ai du mal à le faire publier, donc ça m'a amené à rencontrer des gens, des éditeurs, et le retravailler plusieurs fois, ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt abouti. Et donc, cette l'Inde, c'est venu après, et l'Inde, c'est le pays où on se reconstruit la Palestine. En tout cas pour moi, ça a été vécu comme ça. C'était un pays que je connaissais déjà, parce que j'y avais déjà vécu, et j'y avais été avant la Palestine. C'est un pays qui a cette dimension très spirituelle, alors parfois très caricaturée, je ne suis pas sûre que ce soit le moment là, de le développer, mais... qui a ce message quand même sur la paix, si on gratte un peu, qui est d'abord une paix intérieure. Alors ça a été un peu le fil en fait entre la Palestine et cette guerre et ce besoin de paix et de paix extérieure, hein, concrète, et l'Inde qui vient dire des choses sur la paix intérieure et sur cultiver, c'est le message de Gandhi quoi, sur le changement aussi, soyez le changement, incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc après la Palestine, parce qu'il y avait ces questions très importantes, je suis repartie en Inde et là j'ai été rencontrer d'autres gens avec des sages, hein, comme on pourrait dire. Et donc il y a tout un cheminement initiatique et spirituel dans ce bouquin qui est aussi raconté et qui est comment l'Inde aide à guérir de la Palestine sans l'oublier du tout, hein, la preuve le bouquin, mais pour cicatriser, en faire autre chose et aussi peut-être pour sortir de la tristesse et la colère, en parler avec détachement et continuer à en parler mais d'une autre manière, avec peut-être plus de paix, enfin j'espère. Voilà. Bon, cela dit, le bouquin n'est pas un bouquin sur l'Inde. Il y aurait plein de choses à dire et donc c'est juste un petit goût d'Inde.
Oui, alors c'est un petit goût d'Inde, c'est vraiment un bouquin sur Ramallah et sur la vie en Palestine. Et cette Palestine-là, j'imagine qu'elle t'a marqué, mais que tu vas faire d'autres choses après. Alors après Ramallah, après la Palestine, t'as d'autres envies de fiction ?
Oui. Tout à fait, parce que je suis vraiment mordue, c'est ce que je disais, l'écriture c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, par mon boulot, je suis amenée à intervenir en entreprise pour faire des formations régulièrement et je suis témoin encore et toujours de cette souffrance au travail dont on parle pas mal dans les journaux, mais pas dans les débats politiques. et je trouve que c'est une vraie question. Comment on en arrive à mettre des gens dans des situations extrêmement... dangereuse, puisque certains vont jusqu'à se tuer ou à mourir de burn-out ou tout ça. Et cette tension et cette animosité, cette violence-là. Alors je crois que ça, c'est un truc important pour moi, c'est la question de la violence. Je crois que ça me vient d'ailleurs, je sais bien d'où. Et c'est une question qui continue à me travailler et que je trouve importante. Quand je suis revenue de Palestine, il me semblait que ce monde-là était très lisse et très ennuyeux, ce monde français. J'en suis revenue. Il y a plein de choses ici, il y a vraiment des choses à dire ici et ailleurs, mais en tout cas, donc... il y a des choses à dénoncer. J'ai une écriture qui se veut aussi, une écriture témoignage, une écriture proche du journalisme aussi, parce que, par exemple, pour Ramallah, j'ai mené des dizaines, centaines d'entretiens, j'ai beaucoup été lire en bibliothèque, il y a quelque chose de très informé, enfin, j'espère, même s'il y a un point de vue, il y a quand même un fond objectif. Et là, c'est pareil, là, il y a des recherches que je suis en train de mener, et ça servira sûrement de toile de fond à un prochain roman qui se passera donc, dans l'entreprise moderne, dans cette société ultra-libérale, qui, sous couvert de productivité, conduit à l'abattoir de dizaines, de centaines, de milliers de personnes dans des conditions que je trouve très étranges. Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Bah, merci à vous pour cette interview. مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما قتلت إجدادي أجل الخنون على الفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بلادي حلمك انقل فوق ما احنا آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله انكم ناسية من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولا تسمو عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية يعني ضربتني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نصيت وحكيت ما انتو بتخلي ولاد صغار المحجار ما لهمش أهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الأهل تحت الأشجار وهلا لما وجع الفار بتناديني إرهابي مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي مين إرهابي وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اتصلوا عده شتلتو وعده شتمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو خبرتو بدلا احنا كبرنا فقر من كبر فوسع ومن كبر فجحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ما
فاكرني وانا عايش في بلادي انت ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خد تاني كيف تتوقع مني اشكر الاذاني تعرف ايش انت قولي كيف دخياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدومه عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت امر انت قطل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي
مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي
Ouais, c'était Min Inhabi de Dam, donc c'est un groupe de rap palestino-marocain, et Min Inhabi, ça veut dire « mais qui est le terroriste ?» Et c'est une des questions qu'on se posait avec le roman de Mathilde Vermeer, qui s'appelle « Après Ramallah » et qui est publié aux éditions Michel Demaulle.